Il est 9h20, il est temps de retrouver Totemic avec vous, Rebecca Manzoni. Ce matin, Rebecca, vous allez à la rencontre de l'humoriste Wally Dia, dont on connaît bien la voix sur France Inter d'ailleurs.
Ouais, en ce moment, il est sur scène plus qu'au micro avec un spectacle qui s'intitule « Une heure à tuer ».
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des dates de tournée prévues sur au moins une année.
Ouais, c'est le genre de gars qui sait où il sera et ce qu'il fera le 15 avril 2025, par exemple, à 21h. Ouais. Et ben, ce soir-là, il jouera au Palais des Congrès de Strasbourg, par exemple. Mais ce matin, j'ai retrouvé Wally Dia dans le hall du Théâtre de l'Œuvre à Paris. Et entre tchèque et serrage de main pour se saluer, tout le monde hésite encore en 2024.
Je ne sais plus comment
faire. Moi non plus.
Ça va bien?
Super.
Ouais.
Où est-ce qu'on s'installe?
On va se mettre en bas, non?
Ok.
Soit dans les loges, soit dans le bas.
Allez, c'est parti.
Ah oui, là,
ouais, on va se mettre dans les loges là-bas.
D'accord, ouais. Parce que là, c'est tout noir.
Ouais. Il y a une croissant et tout.
Une échappée de Totemic avec Wally Dia, c'est parti jusqu'à 10h. Évidemment, son spectacle est écrit au cordeau et chaque geste précisément dessiné. Pourtant, on le voit interpeller le public, le solliciter pour qu'il propose des sujets d'actualité et on a la sensation que Wally Dia improvise sur le moment pour évoquer la situation des profs, des flics ou des femmes avec vannes et chiffres à l'appui. Des chiffres, oui. Des faits sourcés. En sortant, on se dit que finalement, faire des blagues peut être une façon de mettre un peu de sens dans une réalité qui perd la boule. Quand il arrive sur scène, son public est conquis d'avance. On pense à l'humour politique de Guy Bedos qui aurait croisé le groupe IAM, plus un danseur de hip-hop. La danse, Wally Dia l'a pratiquée et on en parlera. La radio, il continue d'en faire, environ une fois par mois, à l'heure vespérale du grand dimanche soir sur Inter. Son spectacle s'intitule « Une heure à tuer ». Je l'ai vu assise entre un gamin et une mamie à cheveux bleus. Wally Dia va parcourir toutes les scènes de France jusqu'au printemps 2025. Ce matin, nous sommes posés dans une loge du Théâtre de l'Œuvre à Paris.
Totemic. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Le spectacle, il s'ouvre avec un son. On entend Jacques Brel.
Oui.
Pourquoi Jacques Brel et qu'est-ce qu'il dit?
Pourquoi Jacques Brel? Alors Jacques Brel, il dit, voilà, ma fonction, c'est de clarifier ou de brouiller la douleur des gens qui ne savent pas très bien à quoi ils ont mal. C'est une interview de Jacques Brel. Moi, je m'en suis mangé des kilomètres, des interviews de Jacques Brel.
Ah ouais?
Ouais. Je trouve qu'il avait des travers comme tout le monde, mais il avait une vision de la vie qui m'intriguait pas mal. Donc je me suis tout regardé. Parce qu'on lui dit, vous êtes un artiste. Si je suis pas un artiste, je suis un artisan. T'as besoin de mes chansons, bah tu viens chercher mes chansons. Comme t'as besoin que le cordonnier répare tes chaussures, il répare tes chaussures, quoi. Il dit, ma fonction, c'est ça. Sauf que moi, ma fonction, elle est pas matérielle. Elle est le temps d'une chanson, d'adresser les douleurs des gens. Alors lui, c'était beaucoup de douleurs sentimentales, etc. Mais moi, c'est des douleurs plus sociétales, mais je me suis reconnu dans cette phrase, en fait.
Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose et qui travaillent avec une grande énergie, finalement.
Comment vous en êtes venu à Jacques Brel? Qu'est-ce qui vous a conduit à Brel? Parce que vous dites, au départ, ça m'intriguait. Avant de tomber sur cette phrase, qu'est-ce qui vous séduisait chez cet homme?
Ouais, il avait une espèce de fougue de liberté. Moi, j'avais... En fait, c'est marrant parce que j'avais vu ça très petit. J'avais vu des images à la télé de Brel et je voyais une espèce de dingue sur scène.
Suant.
Ouais, voilà, qui se lâchait complet. Alors que nous, à l'époque, on était déjà dans les chanteurs très propres. Très,
C'est-à-dire?
Bah, on était dans les boys bands, nous, à l'époque, quand j'ai vu ça. C'était les To Be Free, là, qu'on voyait. Bon, il y avait le rap et tout, qui était plus sale. Mais je veux dire, dans le mainstream, les trucs qui passaient à la télé, c'était ça. Donc, c'était les mecs à mèche, tout maquillé. Tout. Et l'autre fou, qu'on voit là, avec ses gros chicots, qui pousse une voix incroyable, qui transpire et qui est possédé. Je me dis, non, il y a une différence, là. Entre ce que vous me vendez et ce qui est possible. Et donc, ce mec-là, ça m'a marqué, quoi. Cette espèce de bête de scène comme ça qui était là. Et puis, à l'arrivée de YouTube, parce qu'on avait ce pouvoir de remonter le temps, quoi. C'était fou. Et donc, je tombais sur lui. Et en fait, les suggestions YouTube m'amenaient à des interviews. Puis, c'est poétique, quoi, quand il parle. C'est assez hypnotisant, je trouve. Moi, j'ai toujours aimé ce lexique-là années 70, Audiard, tout ça, ça me... Enfin, quand je suis tombé là-dessus, je suis tombé de ma chaise. Je me suis dit, mais on peut dire tout ça. Il y a tout ça de mots qui existent. Pourquoi on ne nous les dit pas, à nous? Pourquoi,
En découvrant Audiard?
Ouais, Audiard, mais plein de trucs, même dans le rap. Hein. Le rap m'a amené énormément de mots et énormément de vocabulaire, mais cette manière, en fait, d'amener un vocabulaire très soutenu pour dire des trucs graveleux et drôles et parfois très bas du front, etc., pour moi, c'est le meilleur des pieds de nez, parce que c'est-à-dire je maîtrise ce langage et je vous raconte des conneries si j'ai envie. C'est pas pompeux, dans le sens où j'en mets 3 tonnes pour montrer que j'en connais 3 tonnes, c'est j'en connais 3 tonnes pour raconter parfois de la merde, parce que je fais ce que je veux. Et j'ai adoré ça chez Audiard, et chez tous les acteurs incroyables qui l'accompagnent à chaque fois. Et je me suis dit, ouais, c'est une force de l'humour français, c'est ça.
Je pense qu'il y a un lien entre Audiard et le rap. Parce qu'il y a l'idée de la punchline. D'avoir un sens de la vanne très, très synthétisé comme ça.
Et puis une rythmique. Audiard, c'est une rythmique. Il rappe, Audiard, quand il parle. Il y a un truc, très... déclamé, il est comme ça tout le temps. C'est de la musique, Audiard, quand il parle. Et surtout ses dialogues, c'est des partitions quoi, qu'il faisait. Parce qu'en plus, il connaissait ses instruments, puisqu'il prenait les mêmes tout le temps. Il prenait les gabins, les Ventura, les machins. Il connaissait le son du violon et il faisait une partition pour cette personne-là. D'ailleurs, Gabin disait je ne veux que Audiard dans mes dialogues. C'est parce que voilà, c'était des musiciens et puis ils faisaient leur truc. Donc, et pareil pour Gabin ou Ventura, c'est de la musique quand ils parlent. Enfin, moi, j'entends de la musique en tout cas. Et le rap, moi, j'ai été bercé par des rappeurs qui avaient ce niveau de lexique-là.
D'ailleurs, le tube que vous avez choisi pour aujourd'hui, c'est Demain c'est loin, ouais, d'Ayam. On va en écouter un passage.
Oui,
c'est ça. C'est un titre long, mais on va en écouter le début.
Se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit un plus, jamais je ne l'ai revu. Tenter le diable pour sortir de la galère, t'as gagné ferme, mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, poussé au milieu d'un champ de béton.
En fait, c'est le premier album que j'ai acheté.
Donc on est en 1997, l'album s'appelle L'école du micro d'argent.
Ouais.
Et vous avez 9 ans.
Ouais, et moi je l'achète en 98. Parce qu'à l'époque, j'avais la fâcheuse habitude de voler les CD de titres. C'était des CD de titres à l'époque. Il n'y avait pas d'antivol dessus. Donc on n'avait pas Spotify à l'époque. Hein. Donc on les prenait, puis c'était tout fin. Donc ça rentrait sous le t-shirt et tout. C'était pas un kiff hein, de faire ça, mais c'était la petite combine à l'époque. C'était donc la grande époque des albums en physique.
Avec des CD.
Voilà, des CD avec les livrets de paroles. C'est-à-dire que dans cet album-là, je comprenais un mot sur deux, hein, comme j'avais 10 ans, et qu'il parle de sclérosé, de mots que tu sais pas ce que c'est. Donc tu regardes, après tu passes du livret au dictionnaire, le dictionnaire te dit ça veut dire ça, donc tu réécoutes le morceau, tu dis ah d'accord, donc c'est ça, donc en fait il associe cette image à ça. Et en fait je crois que ça m'a ouvert le cerveau au vocabulaire et à la puissance du vocabulaire. Tous les sons sont des classiques incroyables, je les connais tous par cœur tellement je crois que c'est le truc que j'ai le plus écouté dans ma vie et que je peux écouter encore aujourd'hui sans problème en fait, c'est un chef-d'œuvre.
Je mets la vie et coriace en lutte comme on peut. Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses soi-disant mal élevés. Friction, excitation, patrouille de civils, trouille inutile, légende et mythe débile. Hachis au kilo, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar de silo, safilo, bloc 20, pack de Heineken dans les mains.
Mais en plus ce morceau-là, qui est un classique du rap, et qui est devenu un classique en tout cas, il y a la description d'une réalité sociale, qui est la réalité de ce qu'on appelle encore la cité, de sa violence, de la présence de la drogue, des discriminations. C'est ça ce texte.
En fait, c'est vraiment une description du quotidien, mais de manière très pragmatique. Aujourd'hui, par exemple, on va un peu fictionner ce quotidien dans les morceaux de rap, en faire quelque chose, parce qu'il y a cette volonté de dire « je ne le subis pas, je suis le maître de cet environnement-là ». Ce que je comprends très bien. Là, on était plus dans les années 90, etc., on était plus dans le côté « on morfle ». Mais je vous le dis, voilà, quand il dit J'ai fêté mes 20 ans avec deux packs de bière. Enfin voilà, c'était vraiment ce truc.
À la Valstar.
Ouais, c'est ça. Et on a rien, quoi. On a que dalle, on sait pas quoi faire, on est rien, on voit bien qu'on est rien, on voit bien que tout le monde s'en fout de nous. Et donc, du coup, comme on fait rien, on se tape dessus, on se fait taper dessus. Enfin, c'était ce truc de regarder comment on morfle. Et puis tu sens même dans la façon de rapper qu'il y a un truc hargneux, quoi. Là, ça commence à vraiment me faire chier. Et je vais vous le dire, je le dis encore avec des mots sympas, mais parce qu'il y a Ayam, c'était rarement dans le vulgaire, c'était plus dans l'exposition des faits, etc. Et donc ouais, c'est une description journalistique en fait du quotidien de mecs de quartier populaire. Et c'est des images. Alors moi, j'ai pas eu qu'une enfance de quartier populaire. J'étais dans un peu dans tout. Mais il y a plein de trucs que j'ai vus, quoi. Quand t'entends ça, tu dis oui, ça c'est ça. Puis ça c'est lui. Puis ça c'est truc. Puis ça c'est. Et donc c'est ce transfert-là qui est hyper important, où tu te dis t'es pas tout seul.
En fait, en vous écoutant, je me dis que ce morceau, il vous a façonné vachement dans ce que vous faites aujourd'hui.
Oui, et cet album en général, mais particulièrement ce morceau. Parce que déjà, rien que le format, il fait 9 minutes. On était déjà rentré dans les morceaux, 3 minutes 30, radio, un couplet, un refrain. Et ils ont dit, non, là, on va vous faire des couplets, on sait pas jusqu'où on va, on sait pas quand ça s'arrête, et on s'en fout. Encore une fois, c'est cette liberté-là de dire il y a des formats, il y a des codes, il y a des trucs. Ça, c'est votre problème. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. La seule chose que moi, je rajoute à ça, pour moi-même, c'est l'humour. Parce que moi, j'ai besoin de me marrer, en fait. Quand je suis trop premier degré, je crois que je sombre vite dans quelque chose d'assez froid et d'assez... voire même parfois... mélancolique, quoi. Donc, je préfère me dire... non, moi, je vais rigoler. Vous me rendrez pas triste. Je vais me marrer avec ça, mais avec l'efficacité. Souvent, les gens me disent que je fais, c'est limite du rap quand je fais mes chroniques, etc. C'est juste que ça rime pas, mais dans le, mais
dans, parce que dans le flow.
Ouais, voilà. Mais parce que c'est pareil. C'est. Je pense que tout artiste, même un peintre, il a une énergie musicale. Parce que la musique, c'est le truc qui se diffuse le plus facilement en termes d'art. Et je crois qu'on part tous de là. Plus ton énergie musicale est forte, je crois, plus elle touche les gens. C'est l'importance de, voilà, du rythme, de l'efficacité. Mais ça, c'est très culture hip-hop en général. Hein. C'est, si tu danses, c'est maintenant. Il faut tout donner maintenant. Si tu rappes, c'est là. Il faut faire ça. Bah, dans le stand-up, c'est pareil. C'est là, t'as 5 minutes. Là.
Alors, les profs, j'essaie de l'éviter parce que j'essaie de pas trop dire de mal des profs. Pas parce que c'est l'épine dorsale des nouvelles générations. Non, c'est parce que c'est le cœur de cible de France Inter. Donc...
Extrait de Une heure à tuer, nouveau spectacle de Walidia.
Ah, donc c'est pas de la bienveillance, c'est du marketing, ça n'a rien à voir. Bah, regarde, il y a des profs ce soir?
Ouais.
Toujours, toujours. Et ils apparaissent un peu partout comme des mangoustes. Et... Oui. Ils se reconnaissent entre eux. Oui. Petit café. Oui, parce qu'il faut savoir que le pilier de l'éducation nationale, c'est le café, les gars. Le café. Oh là là. Les profs, tu peux leur mettre des salaires de merde, des classes surchargées, des locaux défoncés, une ministre qui leur pisse dans la bouche le premier jour. Bouge pas. Enlève la machine à café, tu vas voir. Enfin, faut comprendre, les profs ont besoin d'une substance pour tenir. S'ils ont pas ça, ils craquent, ils disent la vérité aux élèves, quoi, tu vois. Arrêtez tout, vous n'avez pas d'avenir. Allez, voilà. Ça, c'est plié. Voilà, range ta trousse. Toi, ça sert à rien. Non, tu vas devenir préparateur de commandes pour Amazon. T'enflammes pas. Tu vois ce que je veux. Voilà, oui, tu peux faire l'impasse sur l'Empire byzantin. Exactement, c'est ça.
Lui est californien et se fait appeler Sir. Poetry in Motion, c'est le titre du morceau qui suit. She don't ever mind me. If I slip, I slide. I don't trip, I glide. When I dip, I dive. When I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When it's poetry in motion, she don't ever mind me. I'm a Mac, little baby, no, it's a fact. Los Angeles in my lap. Got belly still in the trap. I really be spitting bars. Got niggas thinking I rap. I'm hanging out with the stars. Still can't relax, even in these foreign cars. I'm rolling around with the strap. When I hit it hard. Permission to make it clap. I need a round of applause. But I might settle for that. Had to break a couple laws. Put my city on the map. You think you beat the pussy up, but you didn't make her come. Even if you made her come, she ain't ever coming back. Play it like you couldn't call.
got your lap like a jack. Got Billie Jean talking bad behind your back.
She can roll with me, it's a lucky day. Got a pound of tree and a gang of yay.
We had sacks, blending in and spinning racks. Representing is a trend, I don't see no end to that. Where you at?
If I slip, I slide, I don't trip, I glide. When I dip, I dive, when I dive deep. In the middle of her ocean, you know where to find me. When it's poetry in motion, she don't ever mind me. If I slip, I slide, slide. I don't trip, I glide. Glide. When I dip, I dive, when I dive, I dive,
when
deep.
I dive, I
in
dive
the
deep.
Middle of her ocean, you know where to find me.
Come
when it's
on.
Poetry in motion, she don't ever mind me.
They told me slowly is the fastest way to get where you wanna be. So I ease to a steady speed, let that bitch breathe. No push, stop, give me keys to that blue Impala, this the good part. When you're living everything you thought about, no single mothers who had to teach their sons how to squabble. No killers who became good fathers who raised their daughters. Look now, AP, I'm 50 for my keys, Las Vegas residency. I brought the two of them me, the good part. It's father for father, I know it might look hard, but baby, nothing is out of your reach. Grabbed it and I'll be damned if they gon' take it from me. Passion is what I had before any grand.
She can roll with me, it's a lucky day. Got a pound of tree and a gang of yay.
We have sacks and some dirty bands, blowing hella bands. I don't smoke, but I'm still high, that's the price of gas.
If I slip, I slide, slide. I don't trip, I glide. Glide. When I dip, I dive, when I dive, I
when
dive,
I dive,
deep.
I dive
in the middle of her ocean, you know where to find me.
Come
when it's poetry in motion, she don't ever mind me.
Il coécrit ses textes avec Michael Quiroga, qui est sur la première partie de son spectacle Une heure à tuer. Walidia, comédien, humoriste, c'est Totemic. Quand est-ce que vous écrivez, vous ?
Tout le temps. Là, j'écris, là.
Ah bon ? Vous écrivez quoi ?
Non, mais là, c'est que, en fait, je pense tout le temps. J'ai toujours. J'ai le cerveau qui fonctionne en humour, en fait. Je fais pas des blagues quand je parle, mais j'analyse tout avec un prisme humoristique, en fait. Quand je vois les choses, ça me dégage une vanne automatiquement, maintenant. Parce qu'à force de le faire depuis plus de 10 ans, en fait, ça devient une mécanique d'esprit.
Une déformation professionnelle.
Complètement, mais c'est horrible, parce que du coup, je prends pas grand-chose au sérieux. Je sais pas si l'humour enlève de l'implication émotionnelle sur les choses. C'est une question, je pense, je sais même pas si elle a été posée un jour, Mais forcément, en fait, ça devient ouais, une façon de penser. Donc j'écris tout le temps. D'ailleurs, même écrire physiquement, ça m'énerve. Parce que du coup, j'arrête de penser. Et je suis obligé de...
Ça ralentit le truc.
Ouais, ça ralentit le truc. Parce que t'es obligé de te redire ce que tu t'es déjà dit, etc. Ce que j'adore, moi j'ai un co-auteur, Michael Quiroga, avec qui j'écris. Et ce que j'adore, c'est quand c'est lui qui note. Et là, j'ai juste à balancer mes trucs. C'est magnifique. Je comprends les gens qui ont des secrétaires. je comprends.
Quelle est la première phrase du spectacle ?
C'est Israël ou Palestine ? Parce que je me suis dit, quel est le truc le plus crispant avec lequel je peux commencer ce spectacle ? Il n'y a pas de bonsoir. C'est Israël ou Palestine, après c'est Inès Reg ou Natacha Saint-Pierre, après c'est Gérard Depardieu, grand acteur ou mauvais violeur. J'aime bien, en fait, je me dis, ça met le ton tout de suite. Voilà. C'est pas nous qui déclenchons les guerres. C'est pas nous qui violons des gens. Nous, on va en rire parce qu'on a que ça. En fait, on a que ça pour faire avancer ce truc-là. C'est beaucoup de pression qu'on a. Les sujets d'actualité, ça ne s'arrête jamais. Il y a une espèce de boulimie informative qui fait qu'on... je sais pas comment font les gens pour traiter ça. Moi, j'ai les vannes, donc tout va bien, tu vois. Alors peut-être, eux, ils ont mes vannes, du coup. Et ça va, mais c'est énorme, quoi. Tout ce truc qui me tombe dessus, tous les vices de l'humain toute la journée, lui il est corrompu là-bas, l'autre il a fait ça, l'autre il a agressé un tel, l'autre il... Ouais, au bout d'un moment, il faut qu'on puisse se dire, nous ça va, on a tué personne, voilà, on peut se marrer, on peut faire en sorte que tout le poids des vices humains soit un peu plus supportable.
Nouvel extrait de Une heure à tuer, spectacle de Walidia.
Dans le gouvernement Macron, il y a plus de 40 affaires judiciaires. Là, ça y choque même plus. Honnêtement, j'aurais dit plus. Attends, en tant que Français, on a anesthésie à ce genre d'ambiance. On a connu Sarkozy, les gars, donc... Sarkozy, les 40, il les fait tout seul, sur un pied, les yeux fermés. Allez. Sarkozy, il a plus vu le juge que tous mes potes réunis. Et j'ai deux potes qui travaillent au palais de justice, donc tu vois... Le gars est fort. Sarkozy, pour moi, c'est le super-héros de la corruption. C'est mise en examen.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de prêcher les convaincus? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? De se dire, bah, finalement, ouais, je vais parler aux gens qui sont déjà convaincus par ce discours.
Mais en quoi ce serait mal de parler à des gens qui sont convaincus? C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se dire, il faut aller parler à ceux qui sont... Moi, j'ai pas envie de parler à quelqu'un qui, parce que j'ai plus de mélanine que lui, me déteste. C'est lui qui est dérangé par moi. Moi, il n'existe pas dans ma vie. Moi, je veux parler à des gens que j'aime bien, des gens que j'apprécie, des gens qui me respectent. S'ils sont convaincus par mes idées, tant mieux. Et comme ça, on se renforce et on est plus fort comme ça. Plutôt que de toujours vouloir faire plaisir à ceux qui sont pas d'accord. Mais t'es pas d'accord avec moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai pas assez de temps de vie pour l'accorder à des gens qui renient tout ce que je suis et tout ce que je pense. Si c'est pas le cas, faites votre vie, mais moi je vais pas m'empêcher de faire la mienne et de parler avec des gens avec qui je partage des valeurs communes. Je suis pas un homme politique, moi, je suis pas là pour gratter des voix. Je suis là pour transmettre des choses ou reformuler des choses que des gens ont déjà en tête. Je prétends pas inventer quelque chose. Et non, moi je me bats pas pour convaincre des gens qui pensent que les Noirs ont rien à foutre là, ou que les pauvres doivent se démerder, ou que... Ça m'intéresse pas, moi, ces gens-là, ils m'intéressent pas. Je préfère renforcer les autres.
Est-ce que justement faire de la radio, ça a changé des choses pour vous?
Ah mais bien sûr, parce que c'est une rigueur d'écriture qui pousse à aller plus loin, parce que sur scène on est aussi confortable justement.
On est en terrain conquis plus.
Voilà. On est avec des gens qui ont envie d'être là, qui ont pris une babysitter parfois pour être là, qui... voilà, la soirée, il te l'offre, et donc c'est un matelas quoi, on est bien. À la radio, déjà, on est dans le cadre d'une émission, donc il y a 50 vannes avant, 50 vannes après. Il faut tirer son épingle du jeu. On sait que bah, France Inter, c'est une cible particulière. Hein, c'est quand même un média cible. On appelle ça, par exemple, la radio de gauche. Je la cherche encore, moi, la gauche de France Inter en général. C'est pas non plus criant comme ça. Mais bon, voilà, c'est un média qu'on aime maltraiter, France Inter. Donc ça veut dire que les gens dedans vont aussi être secoués dès qu'il se passe quelque chose. Ça me dérange pas, en fait, d'être un peu dans le combat comme ça, parce que c'est rien, en fait. C'est que des mots. Donc c'est pas grave, mais moi, ça m'a apporté énormément en termes d'écriture, en termes de public. Je pense qu'il y a des gens qui s'imaginaient pas que je pouvais leur parler. Sortant du Jamel Comedy Club avec mon survêt et mon truc, ils se disaient, ouais, bon, c'est peut-être pas... voilà, je comprends, encore une fois, je suis même pas dans le ressentiment. Je peux comprendre que l'étiquette comme ça, bon, sur le coup, on se dit ça me correspond peut-être pas. Et puis, bah, les chroniques ont fait que, bah si, en fait. Et je suis content aujourd'hui d'avoir des gens de 50 ans, 60 ans dans la salle. Ça me fait du bien. Je me dis, ça veut dire qu'on peut se parler, en fait. Ce soi-disant de générations qui se parlent pas et les boomers qui aiment pas les milléniaux. C'est pas vrai, en fait. Ils sont là et on rigole. Donc tout va bien.
Là, comme on est au Théâtre de l'Œuvre, quelle est la première salle où vous avez joué? Votre première scène, quoi.
À part ma chambre. Parce que c'est vrai que c'était un peu la première. Il n'y avait personne, mais c'était la première.
Vous faisiez quoi?
Dans ma chambre, j'avais écrit mes premiers textes. Mais je dormais dans l'appartement d'un ami à Nantes, parce que c'est à Nantes que j'ai démarré. Et donc, j'ai répété dans son salon, parce qu'il m'avait mis un petit matelas, je dormais dedans et j'ai répété dans son salon. Donc, c'était là la première fois que je m'exerçais à ça. Et après, c'était dans un bar à Nantes. Enfin, dans la cave d'un bar, d'ailleurs, qui avait été aménagé façon comedy club. Mais où il n'y avait pas encore en France cette culture du comedy club, vraiment. Il y a la culture du café-théâtre, mais comedy club, c'était un peu différent. Donc, on avait l'impression d'être un peu une attraction pendant la consommation de verre. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'écouter. Donc il fallait capter l'attention, etc. Mais c'était un super exercice parce que à partir du moment où tu arrives à capter l'attention de gens qui sont plus attentifs à leur bière, quand ils sont sur des sièges rouges et qu'ils ont payé, c'est facile.
Et alors, un des trucs quand même très importants dans votre parcours et dans l'histoire du stand-up français en général, c'est justement ce qu'on appelle le Jamel Comedy Club, créé par Jamel Debbouze au début des années 2000. 2006, je crois. Et donc, vous êtes de la deuxième génération. J'aimerais bien que vous expliquiez à quel point le Jamel Comedy Club a beaucoup compté pour le stand-up, mais pour la vie artistique et culturelle française en général, en fait.
Bah, en fait, on était arrivé à un point, on va dire, culminant de l'humour. On avait eu d'énormes stars de l'humour, mais qui finalement avaient un peu toutes le même âge, un peu toute la même origine sociale, toute la même origine ethnique.
Donc c'était qui? C'était
C'était l'époque Bigard, Palmade, Chevalier du Fiel, Muriel Robin. Et en fait, bah, il y avait, comme dans plein d'autres endroits, un problème de représentation. en fait, où où il y a une partie de la France qu'on voyait pas dans ce domaine-là. Alors il y avait Jamel, mais comme je dis, Jamel c'est un alien, je veux dire, c'est un être exceptionnel à ce moment-là. D'ailleurs, cette exceptionnalité s'est vue dans son succès, puisque il avait un truc que personne n'avait jamais fait. Enfin, c'était un phénomène, quoi. Mais ce phénomène-là, il aurait pu le garder pour lui, et puis rester là-dedans et faire sa vie, et personne n'y en aurait voulu, je veux dire, ça aurait été humain, comme plein d'autres l'avaient fait avant lui, mais il a ouvert cette porte-là, et en fait, quand j'ai entendu Coluche, j'ai dit, c'est fou ce métier d'humoriste. Quand j'ai entendu Jamel, j'ai dit, il y a quelqu'un qui me ressemble qui peut faire ce métier, et quand on a vu le Jamel Comedy Club, j'ai dit, je peux faire ce métier. Parce que les mecs que je vois là, j'en connais. Je les connais pas eux personnellement, mais je les connais. J'en ai en bas de chez moi, j'en ai au taf, j'en ai en cours. Je les vois, ces gars-là. Donc c'est... Et pour la représentation dans les médias, c'était hyper important, parce qu'après, ils ont été dispatchés dans toutes les émissions, ils ont fait des films, ils ont fait des trucs. Donc... Mais voilà, moi, je me pose toujours la question de s'il n'y avait pas eu Jamel Comedy Club, comment on aurait fait, en fait ? Comment, on va dire les mots, les humoristes noirs, arabes, chinois, les jeunes femmes, comment tous ces gens-là auraient pu faire des carrières ? Je sais pas.
Extrait du Jamel Comedy Club avec Walidia, invité de Totemic ce matin.
Jamel, il y a un truc bizarre dans l'ambiance là, je te jure.
Quoi ?
Si, ça y est, j'ai trouvé, j'ai compris.
Quoi ?
J'ai compris pourquoi ça a changé d'ambiance. Le Comedy Club, il s'est gentrifié.
Mais ouais, on a gentrifié, ouais. On a changé la façade, on a gentrifié le bar, c'est vrai.
Non, c'est
moi, j'aime bien le nouveau style.
Non, c'est pas ça. Gentrifier, ça veut dire changer de population. T'es dans le public, il y a des bobos maintenant. Tu vois, c'est le grand remplacement, mais à l'envers. Tu vois, c'est...
Attends. Non, mais moi, j'adore. Je t'arrête tout de suite. Hein. Moi, je les adore. Hein. Oui. Et les bobos. Hein. Oui. J'adore cette clientèle. Excusez-moi de vous déranger. Hein. D'abord, ils réservent, eux. Ils vous voient. Ils achètent des boissons chères qu'on a payées pas cher, nous. J'adore cette population.
Ouais. Merci. Ouais, mais l'ambiance, c'est pas la même, tu vois. Avant, au tout début, Jamel Comedy, on avait des raids du Tchekar, tu vois, nous réa la chicha en plein air, tu vois ce que je veux dire. On avait des mecs qui sortaient de prison, ils venaient fêter ça ici. Je dis, ouais, refais la blague, fils de pute, j'ai pas entendu. Et tu refaisais la blague, parce que tu voulais pas finir dans un coffre, tu vois ce que je veux dire. Là, les bobos, aujourd'hui, viennent en trottinette, ils vont kidnapper qui, tu vois.
Ça fait un super mélange, désolé. Moi, j'aime quand ça se mélange. Tu vois, ouais. les bobos, les babas, les bubus, tout le monde ensemble, dans la joie et la bonne humeur, non ?
Comme ça a commencé à Nantes, dans des scènes ouvertes, venir à Paris représentait quoi ?
Moi, ça m'a toujours impressionné, Paris. Moi, je suis de Grenoble, donc je suis un provincial, comme ils disent. Donc j'avais toujours ce truc de Paris, cette espèce de... Paris ne veut pas de moi, quoi. Enfin, j'ai rien à faire là, en fait.
Pourquoi ?
Je sais pas. C'était un complexe, peut-être, d'infériorité, un complexe. Je me suis jamais vraiment posé la question de pourquoi, mais je me disais, c'est une ville où je vais pas y arriver, quoi. Moi, je viens d'une petite ville, je viens d'un petit truc. Comment je vais me débrouiller là-dedans, quoi ? Et en fait, je me suis rendu compte que Paris, c'est juste une assemblée de petits villages. Chacun dans son petit coin, mais c'est pas une grande ville homogène qui dévore les gens. C'est chacun sa petite rue, chacun son petit arrondissement, et t'évolues comme ça. Donc c'était aussi l'endroit de tous les possibles, quoi. Parce qu'à Grenoble, on pouvait rien faire à ce niveau-là en termes d'humour. Il y avait pas de comedy club, il y avait pas de scène ouverte, il y avait rien du tout, quoi. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves à parler avec des gens de télé, de radio, des grands festivals, et tu dis en fait non, ils sont juste là. C'est pas non plus. On n'est pas sur le Mont Olympe, quoi. On est juste, on est à la marque Caulaincourt, tu vois. Donc ça va. Et tu te rends compte, oui, que c'est possible si tu bosses, quoi.
Je suis enfin vivant.
Malik Djoudi, vivant.
Je suis presque devenue
Je crois que c'est le bon moment pour mélanger nos peurs. Parler sans un mot. Pardonne-moi d'être insolent, mais aujourd'hui j'ai 20 ans. Je suis presque devenu grand. Il était temps de prendre de l'âge. J'étais à bout de souffle. Maintenant je nage, on est presque il.
Walidia, humoriste, comédien, est au micro de Totemic jusqu'à 10h. J'aimerais bien qu'on parle de danse, parce que vous, vous avez été danseur. Qu'est-ce que ça vous amène, ça, sur scène? Parce que dans votre façon d'être sur scène, il y a plein de registres dans le stand-up. Il y a ceux qui sont volontairement flous, je dirais, dans la gestuelle, dans la façon de bouger. Pas vous. Vous, c'est hyper net, très découpé.
La danse, ça amène une conscience du corps et de l'espace qui fait, encore une fois, qu'on ne subit pas son environnement. Et en fait, j'ai été impressionné par des humoristes comme Courtemanche, qui utilisaient vachement le corps, Jim Carrey, qui était dans ces trucs-là. Et j'ai vu, quand le stand-up est arrivé, enfin, s'est développé en France, un espèce de côté statique. Donc je me disais, on va vite se faire chier, en fait, hein, si on est tous en présentateur télé, en Nico Salegas, tu vois, comme ça. Je me dis, c'est dommage, quoi. On a toute une scène, tout un truc. Dans ce cas-là, on fait quoi? On fait des scènes de 1 mètre sur 1 mètre, en fait. On n'a pas besoin de... Si les mecs bougent plus. Donc je me suis dit, non, moi, j'ai envie d'intégrer ce que je sais faire dans l'humour, pour donner du rythme. Parce que si entre deux vannes, tu fais un geste, ça te fait un rire en plus, il se passe quelque chose, il y a du jeu, il y a du... Et c'est vrai que la danse, ça amène une certaine précision chorégraphique qui fait que tu vas refaire le même geste à chaque fois, tous les jours. Et t'as une mémoire du corps qui fait qu'en fait, il sort comme ça. Je pense pas en mise en scène, je me dis pas, faut que je me mette là, faut machin. Ça vient comme ça, en fait.
Ah bon? Parce que c'est vachement précis. C'est-à-dire que c'est comme pour écrire. Faut synthétiser une phrase, mais pour le geste, c'est pareil. C'est-à-dire que pour représenter... Un flic avec un gilet pare-balles, vous allez mettre les deux mains en bas des omoplates, là, tout de suite on voit le gars.
Mais parce que je les ai vus faire. C'est que moi, quand je parle de ces émissions-là, de reportages sur la police, etc., ils se tiennent tous pareils.
C'est-à-dire?
Ils sont tous comme ça, les mains sur le gilet pare-balles, entre la lacrymo et les menottes, et ils sont comme ça, et puis ça leur donne une espèce de... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un code, quoi, qu'ils ont, de se dire, je me pose, quoi. Je suis là... Écoute-moi, petit. Donc je me suis dit, ils font tous ça, donc si je dois en représenter un, c'est ça que je vais faire, en fait. J'invente pas une posture de flic ou un truc. Non, c'est que si tu regardes toutes les images, ils sont tout le temps comme ça.
Mais il y a plein d'autres gestes dans le spectacle, comme ça.
Bah ouais, parce que je trouve que parfois, décrire une situation, ça prend du temps. Alors que faire un geste, c'est comme la réaction du raciste qui rentre dans une boulangerie qui est pas tenue par un blanc. C'est de la danse, c'est du popping, c'est de la contraction musculaire comme ça. Et boum, ça exprime tout, en fait, ce truc-là. Et ça fait un énorme rire à ce moment-là, parce que cette gestuelle-là en dit plus qu'un paragraphe, quoi.
Alors, en même temps, il faut être efficace, mais aussi, on ne peut pas être au taquet tout le temps dans le spectacle, non?
Je pensais ça au début, mais en fait, on peut avoir le même niveau de rire avec... des registres de vannes différents. Évidemment que quand tu démarres, tu cherches le truc rapide, efficace tout de suite, qui va t'amener un nombre de rires, parce que tu veux de la quantité de rires.
Ça rassure.
Voilà, il rit tout le temps, il rit toutes les 10 secondes, on est bien, tout va bien, je suis fort, tout, voilà. Une fois que tu sais ça, tu sais que oui, tu sais faire ça, tu passes à la qualité, mais... Pour moi, la qualité ne se fait pas forcément au détriment de la quantité. C'est-à-dire que tu as juste à faire plein de vannes de qualité à la suite. Et dans ce cas-là, il faut en écrire 60 pour qu'on garde 6. Parce que tu en garderas toujours une sur 10 à peu près. Il y en a plein qui vont sauter, mais il faut écrire comme un acharné, quoi. Et puis retester tout le temps. Il n'y a rien de pire que d'être dans un spectacle et de... Ah oui, c'est vrai, il est là, le gars sur scène, c'est horrible. Et moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà allé voir des spectacles, je ne dirais pas qui, mais où je vais décrocher, penser à autre chose, etc. Et ça, c'est un truc je veux pas que ça arrive à mon public, quoi.
Et les voix. Parce que il y a non seulement la gestuelle, et puis il y a plein de voix différentes. Vous avez fait du doublage ou pas déjà?
Ouais, j'aime bien ça. En fait, quand on fait un personnage, j'aime vraiment rentrer dans tout, c'est-à-dire dans sa gestuelle, dans sa manière de parler, dans sa voix, dans sa respiration, dans sa vitesse, etc. Il faut que ce soit très différent de moi pour que le personnage il marche. Il faut que ça sorte les gens de mon phrasé à moi, qui est finalement comme la majorité du spectacle, c'est moi qui parle. Quand on rentre dans un personnage, il faut qu'il soit aux antipodes du mec qui est sur scène, en fait, pour que ce soit marquant. Donc, mais encore une fois, c'est des voix que j'ai entendues. J'invente rien, moi, c'est des gens que j'ai entendus. Que ce soit Mireille, divorcée, trois enfants, que ce soit Ryan, que ce soit le petit Bilal qui rend fou les flics, que ce soit tout ça, c'est des gens que j'ai entendus, en fait, je les refais, tout simplement.
Si on prend un exemple, Mireille ou Ryan...
Mireille, qui pète les plats, je l'ai marre, putain. Je suis divorcé, j'ai trois gamins, je sais pas quoi me foutre, le dernier, il est con comme le poutre, je sais pas quoi.
C'est vrai, il est... Bah, c'est la maman, quoi. La maman énervée, parce qu'on en a vu plein pendant les Gilets jaunes, des mamans comme ça, qu'on voyait pas en manif pendant un moment. Et j'ai adoré, moi, de voir ces gens-là se lâcher et enfin exprimer leur colère et de dire, il y en a marre d'être cette personne modèle, parce que moi, j'essaie de tout faire bien et vous me cassez la tête, en fait. Vous m'empêchez d'élever mes enfants correctement, vous m'empêchez tout ça, alors que moi, j'essaie d'être dans les clous.
La dernière séquence de cette émission, c'est une séance photo avec un Polaroid.
Ouais.
Alors, vous êtes d'accord ?
Bien sûr.
Voilà. Avec le porte-manteau derrière, on s'en fout ? Voilà.
Ah, trop bien. Bon sourire très naturel. Désolé, je mange un pain au raisin qui me regarde depuis une heure.
Ça va, vous reconnaissez ?
Là, ça va. C'est souvent les... J'ai du mal avec les photos, moi. Dès que j'ai une séance photo à faire, c'est une angoisse, j'aime pas ça. Cette espèce d'instant figé, là, c'est maintenant, on va prendre la tête. J'y arrive pas.
Bah, merci beaucoup, Walidia.
Merci à vous.
Walidia est au Théâtre de la Madeleine à Paris du 5 au 8 juin. En même temps, c'est un peu bête de vous dire ça parce que c'est complet, mais en revanche, il part en tournée dans toute la France à partir de fin juin. Passera par Château-Renard, Toulouse ou Le Touquet. Des dates sont programmées jusqu'au printemps 2025, dont l'Adidas Arena à Paris le 8 février. Guillaume Giraud a réalisé cet épisode de Totemic avec Corentin Rouchy ce matin. Ilinka Negulesco a préparé l'émission. Perrine Malinge programme nos invités et JB Audibert prend soin de la musique. La semaine prochaine, je vous propose la réécoute d'une conversation avec Étienne Dao et la suivante. Nous irons à la rencontre du comédien-réalisateur Viggo Mortensen.